à tous, bienvenue dans Carrément Immo. Carrément Immo, vous le savez, c'est votre émission qui hebdomadaire, hein, qui vous permet de découvrir un projet, un partenariat avec deux personnes, deux acteurs du terrain, deux experts engagés, passionnés, très souvent. Aujourd'hui, on va parler d'un projet, le projet 2001. J'ai le plaisir de recevoir Laurent Mouret, bonjour.
Bonjour.
Directeur général de Link City et Thomas Péridier, bonjour.
Bonjour.
Directeur de la promotion tertiaire pour Crédit Agricole Immobilier. Alors, vous allez présenter vos deux groupes en quelques mots, hein, et expliquer peut-être à nos auditeurs les métiers qu'ils regroupent. On va commencer avec vous, Link City, Laurent.
Oui, très volontiers. Donc, Link City, c'est le développeur immobilier du groupe Bouygues Construction.
Oui.
Nous sommes actifs sur l'ensemble des classes d'actifs de l'immobilier. On fait aussi bien du résidentiel, du tertiaire, de l'activité, des locaux d'enseignement, de l'hôtellerie. On est vraiment actifs sur l'ensemble de la chaîne de valeur. On est très présent sur toute la chaîne de valeur, parce que nous sommes aussi aménageurs et investisseurs par le biais de partenariats. Et puis, on axe notre action sur quatre piliers. Le premier pilier, c'est répondre aux enjeux des territoires. On a un maillage très fort sur la France. Mmh. On a plus de 20 implantations en France.
Qui sont réparties de façon
uniforme.
Qui
sont réparties de façon très homogène sur l'ensemble. On est présent partout sur l'ensemble du territoire. On est aussi en capacité à répondre à des besoins multiples. Je vous l'ai dit, on est présent sur toutes les classes d'actifs. Donc, on fait se rencontrer les enjeux des territoires avec les besoins. On est adossé au groupe Bouygues. Donc, on a une force technique assez reconnue.
Et vous traversez bien la crise aussi. Hein,
et on arrive à peu près à traverser la crise correctement. Et puis enfin, le quatrième pilier qui nous guide dans tout ce qu'on fait, c'est bien sûr le développement durable et notamment la volonté de décarboner notre activité. Et pour terminer, notre baseline, puisqu'on est des acteurs de la fabrication de la ville, c'est notre raison d'être, c'est lier la ville à ceux qui la vivent.
Voilà
pour Link City.
C'est une très bonne baseline. Alors, voilà, Crédit Agricole Immobilier, même si on connaît aussi bien la marque, hein, est-ce que vous pouvez nous rappeler les métiers que vous regroupez?
Oui, Crédit Agricole Immobilier intervient sur toute la chaîne de création de valeur, que ce soit immobilière, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises. On est présent sur tout le territoire. Grâce à notre maillage et les 39 caisses régionales du Crédit Agricole, on intervient aussi bien dans le service aux particuliers via la marque Square Habitat. Les réseaux d'agences immobilières qui réalisent de la transaction, de la gestion et également du syndic, mais également sur les services auprès des entreprises. Nous sommes devenus leaders du property management en France, sur toute classe d'actifs, que ce soit résidentiel, bureau ou commerce. Et puis, c'est également la promotion résidentielle et tertiaire partout sur le territoire, avec un engagement très fort sur le développement d'un immobilier durable et décarboné sur toute classe d'actifs pour des projets franciliens, mais également pour des projets en région. Et nous allons développer et continuer à développer des projets extrêmement vertueux dans ce sens.
Alors, on a bien compris les enjeux des territoires. Hein. Il y en a énormément. On a bien compris votre engagement par rapport à ces enjeux. Alors là, on va faire un focus sur le quartier de la Défense qu'on connaît, un quartier d'affaires. Alors, si le quartier d'affaires de demain n'était pas seulement un quartier de bureaux, on va en parler justement, hein, de la tendance des bureaux, si la Défense devenait un vrai lieu de vie, hein, un lieu de vie mixte, bas carbone, je reprends vos mots, connecté au sol, à la ville. Voilà, c'est le projet 2001. Alors, vous l'avez dévoilé au MIPIM. Le MIPIM, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, c'est le grand salon de l'immobilier, hein, le salon international à ne pas louper. Alors, justement, ce projet, avant de rentrer dans le détail, il s'inscrit dans la transformation de la Défense. Quel a été votre rôle à chacun? Alors, le rôle de Link City et puis le rôle de Crédit Agricole Immobilier. Est-ce qu'on voit que parfois vous faites un petit peu les mêmes métiers, hein?
Oui, alors, on a notre association, elle est liée de deux choses, elle est née de deux choses. La mise en commun ou de notre expertise, le Crédit Agricole Immobilier est un expert de l'immobilier, Link City l'est aussi. Donc on a mis en commun nos forces d'expertise et puis ensuite on a mis, je crois, Thomas, je parle sous ton contrôle, mais c'est comme ça que je le ressens. On a mis aussi deux expertises complémentaires au service de notre équipe, c'est-à-dire la très grande expertise immobilière, mais aussi très grande connaissance du Crédit Agricole, de la Défense, pour y être, je parle du groupe, propriétaire de nombreux immeubles, donc un acteur de la Défense, et puis nous, certainement, une compétence technique qui était absolument nécessaire pour travailler ce projet, puisque vous l'avez dit, ce sera le... Enfin, non, vous ne l'avez peut-être pas encore dit, mais on va le dire dès maintenant. Ce sera le premier IGH bas carbone de France. Donc, en étant adossé...
Alors, IGH, c'est immeuble grande hauteur.
Hein. Immeuble de grande hauteur, exact. Immeuble de grande hauteur. Excusez le jargon. c'est vrai que Bouygues Construction a une capacité technique à appréhender ce genre de problématique. Donc, c'est à la fois la mise en commun d'expertise et des complémentarités pour pouvoir relever ce genre de défi. Et c'est ce qu'a présidé à notre association pour répondre à ce projet.
Mmh. Oui, un projet complexe d'un point de vue technique, Laurent vient de le rappeler, puisque première tour bas carbone de France, complexité également puisqu'on intervient sur un terrain qui n'existe pas. Si vous connaissez le site de la demi-lune actuellement, c'est un no man's land routier dans lequel l'homme ou la nature n'a pas sa place.
Oui, c'est très moche d'ailleurs, hein. C'est plein de routes qui se croisent.
Oui, c'est tout à fait ça, c'est un environnement complètement inhospitalier pour lequel on va engager une transformation forte. Il va falloir dévoyer des routes, mais il va falloir également renaturer et amener 50 000 tonnes de terre. Donc un défi technique sur créer un sol, créer un foncier, un défi technique d'un point de vue environnemental pour aller chercher un niveau d'ambition extrêmement fort sur cette tour qui visera le seuil 25 de la réglementation. Un défi également commercial, parce qu'on est véritablement sur un nouveau positionnement et c'est la complémentarité entre Link City et Crédit Agricole Immobilier que d'imaginer un nouveau morceau de ville dans lequel cette mixité programmatique va initier le renouveau de la Défense. C'est le nouveau visage de la Défense qu'on ambitionne sur ce site-là via une programmation complexe, très mixte, puisqu'on a à la fois du commercial, culturel, résidentiel, de l'hôtellerie et du bureau. Et donc, la nécessité d'apporter des réponses juridiques, techniques, commerciales. Et c'est en ce sens que notre binôme est il me semble, plutôt totalement adapté. En tout cas, Crédit Agricole Immobilier est ravi d'être associé à Link City dans cette histoire.
J'aime beaucoup la phrase de notre architecte Jamel Clouche de l'AUC. Il y a deux architectes qui ont travaillé sur ce projet, l'AUC et puis XDGA. Il dit, Jamel, avant de parler d'architecture, il faut d'abord créer un paysage.
C'est
vraiment ce qui se passe
sur ce projet.
Sur ce projet, il a fallu d'abord créer le paysage.
Et justement, alors des projets, j'en vois beaucoup de par mon métier, mais là, c'est vrai que c'est un projet qui donne le sourire parce que quand on connaît ce quartier, hein, quand on passe en voiture, par exemple, c'est vrai que c'est assez triste. Et là, de se dire, j'aimerais appuyer sur ce que vous disiez. Hein, là, il y a de la terre qui va être amenée. Il y a la création de 5000 mètres carrés de jardin sans arbres vont être plantés. Ça va être un petit bois en fait. Il y aura un étang.
Tout à fait ça.
C'est vraiment un lieu nature au sein de la Défense.
C'est tout à fait ça. Et on est à 80 mètres de la Grande Arche. Donc là, on est en train de développer un projet qui, à 80 mètres de la grandeur, de Grande Arche, va... grandeur, vous voyez, c'est l'aptus était révélateur, va permettre de redonner un bout de nature et d'agrément un paysage extrêmement minéral et un quartier plutôt monothématique. Et donc l'ambition, c'est véritablement d'amener au cœur de la Défense d'autres types d'usages, d'autres types de populations, une autre façon de vivre, de travailler, de résider à la Défense.
Alors justement, en parlant de cette nature, on appelle ça un îlot de fraîcheur en ville, hein, dans le jargon. Alors il y a plusieurs impacts, on connaît l'impact sur les températures, c'est vrai que ça fait baisser la température. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme impact?
Si vous voulez, oui, c'est un vrai, véritable îlot de fraîcheur à moins de 100 mètres de la Grande Arche. En fait, ce projet, au-delà de cet îlot de fraîcheur, c'est vraiment le symbole de ce que va devenir la Défense. La Défense, qui a été d'ailleurs projet qui a été rappelé dans la raison d'être de PLD, Il repose sur trois composantes. La première, c'est effectivement faire de la Défense un quartier mixte. Et on en parlera, je pense, la programmation, elle est très mixte. Elle n'est pas uniquement tertiaire. La deuxième, c'est le carbone. On a commencé déjà à en parler. Et puis la troisième, c'est effectivement adapter la Défense au changement climatique. Et en ce sens, la partie renaturation, c'est 50 000 tonnes de terre, c'est cette butte, cette colline, on peut même appeler ça une colline de 17 mètres de haut, cet étang, ces 100 arbres, cette biodiversité qui va venir habiter le quartier. On espère que on aura la visite de hérissons, on espère qu'on aura beaucoup d'oiseaux qui viendront là. Eh bien, ça va permettre de renaturer le quartier et effectivement de lutter contre les îlots de chaleur en abaissant la température par toute cette végétation. Et puis cette eau, puisque comme vous l'avez dit, il y aura aussi un étang sur le demi-hectare de jardin qu'on va créer.
Et ça, concrètement, ça va être... Alors, les travaux vont commencer en 2027. Ce sera livré en 2031, si tout se passe bien. Concrètement, comment on désartificialise un sol perméable?
Alors, concrètement, première phase, il va falloir dévoyer les routes existantes, puisqu'actuellement, vous êtes véritablement sur un nœud routier, puisqu'il y a la RD 914 qui passe. On a le boulot boulevard de Vejian qui est en train d'être totalement requalifié par le département que je salue pour le travail qu'il réalise au quotidien. Donc c'est demain le circulaire, ce sera un boulevard urbain, ce sera un boulevard sur lequel on adresse les entrées d'immeubles et c'est ce que l'on fait avec notre projet de 2 minutes. Donc il y a tout ce travail de dévoiement des voiries et puis de déminéralisation du site et d'amener, comme le disait Laurent, ces 50 000 tonnes de terre pour recréer un sol fertile, actif, au cœur du projet. Puisque nos projets, nos trois bâtiments se développent autour de ce parc d'un demi-hectare.
Alors justement, il y a trois bâtiments, donc un très grand de 110 mètres et deux de 50 mètres.
C'est ça, le programme, c'est quatre composantes. Il y a tout d'abord un socle qu'on appelle le socle actif, qui va être sur l'ensemble des immeubles et qui va recevoir plusieurs composantes programmatiques. La programmation va tourner autour du sport, de la culture, de la gastronomie, de l'événementiel. Et puis après, il y a trois immeubles, deux immeubles de 50 mètres de haut qui sont à connotation plus résidentielle. Il y aura 400 appartements pour des résidences étudiantes. Et puis le concept Néos, qui est du logement familial avec des aménités pour 200 logements. Et après, on va avoir notre fameux immeuble de grande hauteur, notre fameuse tour, qui fera effectivement une centaine de mètres de haut, où là, la programmation va être aussi mixte, avec des locaux d'enseignement, avec une école, avec des locaux de formation, avec un hôtel, avec des bureaux, avec un restaurant.
Il y aura six usages.
Il y aura six usages, effectivement, qui vont se décliner. Et ce qui est extrêmement innovant, c'est que c'est en fait de la programmation multiple verticale. C'est assez facile, en fait, dans un immeuble de juxtaposer horizontalement des usages différents. Là, ce sera... pas à chaque étage, mais effectivement, qu'on va avoir une programmation différente. Et puis, au niveau supérieur correspondant au niveau supérieur de la Grande Arche, on aura une agora qui aura une vue absolument magnifique sur Paris jusqu'à la Tour Eiffel et qui sera ouverte au public.
D'accord, donc agora panoramique.
Agora panoramique.
Mais peut-être pour rebondir sur ce que dit Laurent, c'est aussi un gage de durabilité. Puisqu'en fait, cette mixité verticale, elle démontre quoi ? Elle démontre la très grande évolutivité de cette tour qui, à la livraison, aura six usages, six destinations. Mais finalement, on démontre que cette tour, elle peut recevoir différents types d'usages. Donc, il est possible que dans 10 ans, dans 20 ans, la partie hôtellerie ou la partie bureau se développe et vienne manger les surfaces.
Donc c'est conçu pour que les usages puissent changer.
Exactement. Et c'est aussi ça, un projet durable et bas carbone. C'est pas uniquement de construire un instant T en étant extrêmement ambitieux, et c'est notre objectif par rapport à l'Aéro 2025, c'est aussi de concevoir un bâtiment qui va avoir plusieurs vies dans une seule vie et qui va permettre d'évoluer en fonction des besoins des usages de la Défense.
Alors il y aura, donc pour les citer, une halle gourmande, une école, un centre de formation, un hôtel, des bureaux, évidemment, puisqu'on est à la Défense. Mmh. Et justement, alors j'aimerais rebondir sur cette classe d'actifs. C'est vrai que les bureaux sont en pleine transformation, en plein changement. On voit, hein, il y a beaucoup d'immeubles vacants à la Défense. Tout se réorganise. Les entreprises ont changé leur manière de consommer les bureaux. Justement, quel est votre avis là-dessus ? Alors là, vous l'avez dit, hein, ces usages vont pouvoir changer, ça va pouvoir évoluer. Mais à quoi vous faites face, vous, qui êtes bien ancré à la Défense, justement ?
On est dans une phase de renouveau de la façon dont les grands utilisateurs consomment les mètres carrés de bureaux. On a des grands utilisateurs qui, aujourd'hui, ont compris qu'on était dans l'ère post-télétravail massif. Donc là, ils souhaitent un retour au bureau.
Totalement ?
Pas totalement. Il y a toujours une partie de télétravail, mais on est en train sans doute d'aboutir vers une journée de télétravail et le reste du temps en présentiel. Et donc nous, dans les signaux faibles que l'on perçoit actuellement et extrêmement positifs, c'est que les grands utilisateurs réinitient des projets immobiliers, soit de regroupement de sites, soit de modernisation, parce qu'ils ont besoin d'attirer les talents et parce que personne n'a découvert un endroit mieux que le bureau pour collaborer, pour créer, pour gouverner, pour se former, et que le bureau en tant que lieu physique reste indispensable à la vie de l'entreprise. Et c'est vrai que ces derniers mois, il y a eu beaucoup de bureaux bashing, entre guillemets, mais ce qui a été remis en question, c'est une certaine façon de consommer le bureau qui correspond au passé, mais l'avenir du bureau, il est extrêmement positif, il me semble, parce que on voit que les grands utilisateurs, ils ont encore plus qu'avant cette appétence pour un bureau qui reprenne les codes de l'hôtellerie, pour des bureaux où les utilisateurs vivent une véritable expérience de travail. On n'est pas uniquement là pour délivrer un espace, concevoir un espace dans lequel on vient travailler derrière son petit ordinateur, mais comment je vais pouvoir échanger à 2, à 4, à 300, dans quel environnement. Et ça, c'est assez enthousiasmant pour notre secteur d'activité qui, en ce moment, est dans la phase où on doit se re-questionner sur notre façon de concevoir et développer nos projets.
Et c'est un vrai challenge, et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de ce projet, c'est qu'on se projette pour une livraison en 2031, vous l'avez dit. On est en train d'imaginer le bureau de demain. Aujourd'hui, on se questionne beaucoup sur le bureau tel qu'il est aujourd'hui. Mais là, on a la capacité à créer quelque chose de nouveau dans un environnement nouveau, dans un environnement mixed used. Donc, on est en train vraiment de changer les codes, et c'est là aussi qu'est l'intérêt et puis l'enjeu de cette opération, c'est qu'on se projette sur 2031. Mmh. Et d'ailleurs, vous l'avez remarqué, on va construire zéro parking pour les voitures.
On viendra à pied ou en vélo ?
On viendra à pied, en vélo, en transport. Mmh. On travaille beaucoup l'accessibilité piétonne du site. On profite aussi de tout ce qui s'est passé au niveau transport à la Défense.
La ligne 15, hein, vous faites allusion.
Dans la ligne et le RER E aussi. Ouais. On est à 4 minutes en traversant un parc de la station plutôt la Défense. Donc, on est en train vraiment de révolutionner ce que va être le bureau de demain. Par contre, on va faire le plus grand parking à vélo du département, puisqu'on va faire un parking avec 800 emplacements de vélos.
Et trottinettes aussi ou...
Pardon ?
Il y aura des recharges, par exemple, pour les trottinettes
On mettra, mettra en place tout ce qu'il faut pour pouvoir utiliser des modes de transport décarbonés. Mmh. Et on aura aussi... Le boulevard Patrick de Védjean va être complètement apaisé et on aura une accessibilité aussi en bus au pied de l'immeuble. Très facile. Donc, on est vraiment en train de changer les codes de ce qu'on appelle le bureau aujourd'hui.
Et justement, alors moi, j'aimerais qu'on revienne sur les bureaux, sur leur conception. Qu'est-ce que vous avez en tête ? Est-ce que, déjà, quel type d'entreprise vous visez, à votre avis ? Quelles sont les entreprises qui vont être intéressées par ces bureaux ? Et puis, deuxième question, on parle beaucoup d'open space. Est-ce que ça va être le cas ? Alors, j'imagine qu'on pourra réaménager après à l'intérieur. Enfin, les entreprises pourront le faire. Mais voilà, qu'est-ce que vous avez en tête pour ce projet ?
Alors, déjà, le projet, dans sa localisation, il s'inscrit dans ce qu'attendent les utilisateurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a un désir de centralité. Là, on est quand même sur le premier hub d'Île-de-France en termes de transport. Laurent le rappelait, 500 000 voyageurs.
C'est ce qui plaît aux talents, 2030. En tout cas.
C'est ce qu'attendent les utilisateurs. Grande connectivité au transport. Énormément d'aménités sur place, que ce soit sur le site ou à proximité. Juste à côté, 42 millions de visiteurs dans le centre commercial. Là, pareil, on coche la case. Troisième point, les utilisateurs que l'on vise, on vise tous les utilisateurs. Enfin, Laurent, arrête-moi si je me trompe, mais
je te confirme.
Nous ne sommes pas discriminants à ce stade.
Et... Non, mais c'était pas pour vous. Enfin, de votre côté, la question, c'était à votre avis, quelles entreprises vous allez attirer ? Quels sont les profils plutôt des...
En fait, on se rend compte que les utilisateurs de la Défense ont beaucoup évolué avec le temps. L'époque où on avait des mono-utilisateurs, grands groupes, qui prenaient une tour de 50 000 m², 60 000 m², c'est un peu moins dans l'air du temps en ce moment, même si on serait ravis de pouvoir accueillir un grand siège d'un groupe du 440. Donc la tendance, elle est plutôt sur une typologie plus petite d'utilisateurs qui en fait ont besoin de vivre cette expérience de la Défense et d'offrir à leurs collaborateurs la proximité des transports et des aménités, mais aussi ce vivier incroyable d'écoles et de formation professionnelle qu'est la Défense, parce qu'on en parle un peu moins, mais c'est plus de 50 établissements scolaires. Et donc, c'est la capacité pour ces utilisateurs d'aller capter les talents au plus près, puisqu'ils se situent à la Défense. Donc, cette perméabilité entre le monde de l'enseignement et le monde de l'entreprise est assez importante pour ces utilisateurs-là. Et donc, ils repensent la Défense comme un lieu où ils vont pouvoir attirer des jeunes ingénieurs, des jeunes qui sortent des écoles.
Alors, je crois que la qualité des bureaux qu'on va construire ne va pas tenir uniquement dans la qualité des espaces, mais c'est surtout tout ce qu'il y a autour et qu'on va offrir, qui va apporter vraiment de la valeur à ces bureaux-là et qui va permettre aux entreprises qui vont venir s'y installer d'attirer les talents. On a aussi un grand enjeu, c'est ouvrir ce projet sur le reste de la Défense. On travaille énormément, quand bien même il a l'air aujourd'hui assez enclavé, on travaille énormément sur les rapports et les connexions avec l'ensemble de la Défense pour que ce projet, il s'y insère et ne soit pas que, en fait,
quelque chose à part qui soit
tourné vers lui-même, mais au contraire, qu'il s'ouvre sur l'ensemble du quartier et qu'il soit vraiment très bien inséré dans son environnement. Et je pense que c'est ça aussi qui va faire l'intérêt de ce site et qui va rendre les bureaux qu'on va construire attractifs. Mais on le redit, ce n'est pas qu'un projet de bureau. La programmation bureau est relativement modeste puisqu'elle représente environ 10 000 m². Mais ce seront vraiment des bureaux de grande qualité, justement parce qu'ils se trouvent dans un environnement qui intéressera les talents.
Alors, pardonnez-moi de rebondir, mais c'est un point important que vient de développer Laurent. C'est qu'en fait, dans cette programmation multiple, vous aurez noté qu'on n'est pas dans le gigantisme de la Défense tel qu'on l'a connu, c'est-à-dire des tours monofonctionnelles, que de bureaux, que de logements ou que commercial. On est dans une mixité programmatique avec des tailles de surface et de programmation qui sont à l'échelle de la ville. On parle de 10 000 m² de résidence étudiante, on parle de 10 000 m² de logement familial, on parle d'une résidence hôtelière pareille. Donc on est, si vous voulez, dans l'échelle de la ville et on est dans l'échelle de la liquidité, dans un projet en fait adaptable et qui est, pour nous, c'est aussi un facteur extrêmement important et de modernité pour la Défense, c'est-à-dire qu'on construit une sorte de village avec une mixité de fonctions.
C'est un projet très domestique, en fait.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, là, justement, parce qu'on sort du schéma bureau dominant. Quelle est la part dans votre modèle économique de l'habitat ?
Alors, si on fait la résidence étudiante plus la résidence Néos, on est sur 20 000 m², donc ça fait à peu près un tiers de la programmation, puisqu'on est sur environ 60 000 m².
D'accord. Et alors justement, là, dans la résidence, c'est un concept original Néos. Hein. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors c'est un concept Néos qu'on a développé chez Link City, avec d'ailleurs un investisseur qui est Swiss Life Asset Management. L'idée, c'est de faire un immeuble résidentiel qui offre des appartements familiaux et qui offre aussi des aménités. Donc, on construit un immeuble avec un espace de coworking, avec un espace de salle de sport. On a une grande, grande salle à manger qui permet, quand vous n'avez pas la possibilité de recevoir toute la famille pour la communion du cadet, eh bien de profiter de cette grande salle à manger. On y met aussi une chambre d'amis qui soit partagée. Donc, c'est une résidence qui permet, en fait, d'avoir pour soi un appartement privatif qui correspond exactement à la constitution de votre famille, mais de pouvoir bénéficier dans la résidence de services complémentaires, d'ailleurs dont vous n'avez la charge qu'en fonction de l'utilisation que vous
en
faites.
Donc des parties communes, en fait. Hein,
sont des parties communes partagées. Voilà. Et on a plusieurs projets déjà qui sont en cours. On en a un qui est en exploitation et on se rend compte que c'est vraiment un succès, un vrai, vrai succès. Et qui plus est, toutes ces aménités, si on arrive à les ouvrir un petit peu sur le quartier, ça permet d'ancrer l'immeuble aussi dans son environnement.
Et c'est aussi une nouvelle façon d'habiter à la Défense.
Ouais,
parce qu'en
sûr.
Fait, là, ce qu'on est en train de développer, ce n'est pas du logement collectif à la découpe, dans une tour, à la Défense, dans un lieu hyper minéral. Non, c'est une nouvelle façon d'habiter pour les étudiants, pour les familles. Et c'est un habitat qui est plus, comment dirais-je, plus court terme ou moyen terme qu'un logement que vous achetez pour 20 ans ou 30 ans. Et c'est véritablement cette offre qui est manquante à la Défense, selon nous, qu'on développe sur ce projet de la 2001.
Ouais, quel type de baux seront pratiqués ?
Alors là, en fait, on est sur un bail long terme commercial entre un investisseur et un exploitant que sera Neos sur la partie logement familial ou Claes sur la partie résidence étudiante.
Alors ça c'est pour la partie résidence étudiante.
Oui.
Je me permets de corriger un tout petit peu sur Neos. On a aussi une solution où ce sont des baux d'habitation tout à fait traditionnels que chacun des locataires pourra
meubler,
prendre.
Nu,
Meublé ou pas meublé, on propose toute la gamme de possibilités, mais ça peut être des baux tout à fait normaux
pour l'utilisateur final.
J'étais sur la phase
B2B.
Voilà. Un peu plus
un mot sur la résidence étudiante. Alors Clay, qu'on connaît bien ici, hein, parce qu'on j'ai déjà reçu Jean-Baptiste Mortier. Un petit mot justement. C'est vrai qu'on là, c'est vous répondez à une forte demande. Hein, on manque cruellement de logements étudiants. C'était pour vous une évidence d'inclure une résidence étudiante dans ce projet?
Ben, on a un projet. Enfin, la Défense est un quartier étudiant.
Bien sûr.
La Défense est un quartier étudiant. Proposer une nouvelle génération de logements étudiants à la Défense, ça nous paraissait être une véritable évidence. Vous l'avez compris aussi, on va axer notre programmation sur la formation, sur l'éducation, puisque nous aurons à la fois des locaux de formation, mais aussi une école. Donc ça nous est...
Quel type d'école ce sera ?
Ah, c'est pas encore tout à fait défini. On viendra vous revoir pour vous en parler plus précisément.
Avec plaisir.
Voilà. Ce qu'on a quand même, c'est une thématique générale autour de l'innovation. Hein, si on arrive à faire le campus de demain sur l'innovation, le numérique et l'intelligence artificielle, on en sera ravis. Et c'est autour de ces thèmes que ça va se dérouler. Et donc, vraiment faire une résidence étudiante importante et nouvelle génération, ça nous a paru vraiment une évidence.
Alors, on va parler maintenant de l'aspect un peu plus technique, bas carbone. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le premier immeuble de grande hauteur bas carbone de France. Comment, techniquement, c'est possible de réaliser ce défi ?
Alors, les ambitions carbone de l'ensemble du projet, donc nos deux bâtiments de moyenne hauteur, donc résidentiels et résidences étudiantes, ils vont être conformes aux standards de la RE, de la réglementation environnementale énergétique 2020 version 2028.
Donc ils sont
bas carbone, il n'y a pas de problème. La difficulté qu'on a, enfin le défi qu'on a à relever, c'est sur effectivement l'immeuble de grande hauteur. Il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de réglementation spécifique pour les immeubles de grande hauteur, et il n'y en a pas non plus dans la RE 2020-2025 pour les hôtels. Donc l'objectif, c'est aussi de faire un petit peu évoluer cette réglementation pour qu'elle s'adapte à ce type d'immeuble. Notre objectif, c'est de diviser par deux le poids carbone de l'immeuble par rapport à ce qu'on est en mesure de faire aujourd'hui. C'est-à-dire un immeuble de grande hauteur tertiaire, aujourd'hui, c'est environ 1400 kilos équivalent carbone par mètre carré. Notre objectif, c'est de descendre à 700. Aujourd'hui, on arrive à descendre jusqu'à 750.
Donc là, c'est divisé, et, oui, quasiment c'est divisé par deux.
Ouais. C'est divisé par deux. Il faut encore qu'on arrive à aller chercher les 50 kilos qu'on a en trop. Alors, comment est-ce qu'on travaille ça? On travaille sur plusieurs choses. Tout d'abord, la compacité de l'immeuble. On a un immeuble, là, dans les formes géométriques, très compactes. Et ensuite, on essaie de travailler beaucoup la matière, parce que ce qui crée du carbone, c'est l'utilisation de la matière. Donc là, on aura un noyau central avec l'ensemble des circulations verticales en béton bas carbone. Et puis, on va travailler avec du bois, notamment sur la partie des planchers. Donc, c'est une structuration très compacte et avec une structure mixte bois-béton qui sera bien sûr pour les règles incendie en coffret et sprinklé.
Ouais.
Et puis l'idée aussi, c'est de faire évoluer la réglementation pour qu'elle prenne en compte ce qu'on appelle dans le jargon le scope 3 de la réglementation, c'est-à-dire tout ce que l'immeuble va permettre d'économiser en carbone. La chose la plus facile à comprendre, c'est par exemple tout ce qui est déplacement du personnel qui viendra travailler dans cet immeuble.
Vous voulez rajouter
Oui, et ça c'est un point clé de déplacement, puisque en fait on voit qu'il y a une dette carbone relativement élevée à la défense par rapport à la construction des infrastructures. On a construit pendant environ 60 ans des infrastructures de mobilité qui sont absolument incroyables. Et donc, quelque part, ce projet vient bénéficier de toutes ces infrastructures-là. Et donc, à ce titre, on se doit de continuer à amener des usages mixtes à la défense et au plus près de ces transports, parce qu'on amortit mieux ces infrastructures carbone qui ont été payées d'un point de vue carbone ces 60 dernières années. Et l'autre point, c'est qu'en permettant d'avoir une tour évolutive qui va s'adapter en fonction des usages de demain et d'après-demain, on est également dans un développement éco-responsable et bas carbone, au-delà même du seuil RE 2025. Et ça, je pense que c'est la véritable responsabilité du promoteur, c'est d'aller bien au-delà de la réglementation en proposant un immobilier durable. Et peut-être qu'à la livraison, ça sera du flex-office, mais peut-être que ça sera encore une autre typologie d'aménagement des espaces, et peut-être que les bureaux à la livraison ou 10 ans après, mais il en faudra 2 fois plus, eh bien, il faudra que le bâtiment puisse évoluer avec une empreinte carbone la plus limitée possible. Et c'est ça ce sur quoi on travaille actuellement.
Question rapide, est-ce qu'il y aura du hors-site? Est-ce que vous allez utiliser le hors-site ou pas du tout?
Oui, très certainement. Il est plus facile de faire de la structure en béton bas carbone hors-site que sur-site.
Ah ouais, bien sûr.
Donc je pense que Ce projet est un tel défi technique que il faudra bien évidemment qu'on réinvente aussi notre façon de construire. Ouais. Et je pense que le hors-site s'imposera de lui-même.
Donc je rappelle qu'à notre auditeur, c'est une partie qui est assemblée dans des usines, on va dire.
Exactement.
Et qui est amenée par... Et ça réduit aussi l'empreinte carbone. Il y a moins de perturbations aussi sur le chantier.
Tout à fait.
Et puis alors... Autre question, donc là, 2031, on l'a dit, sur l'accès, vous l'avez dit, hein, ce sera à pied, en métro, en RER.
En bus, à vélo, en trottinette.
Voilà. Et puis, on va terminer cette émission avec, un petit mot chacun. Si je devais vous demander la défense en 2031, justement, comment vous l'imaginez? Si vous pouviez me décrire le quartier, ce quartier de la défense.
Je pense qu'en 2031, la défense va être renaturée. On va travailler de façon totalement différente grâce à l'arrivée également de la ligne 15 du Grand Paris Express. On va véritablement assister à une transformation de, allez, on va dire au moins 200 000 mètres carrés de bureaux qui vont se transformer en résidentiel. On va avoir la chance de pouvoir déambuler en vélo, ce qui est plus compliqué à faire aujourd'hui. Et donc, au travers de 2001, c'est véritablement le nouveau visage de la défense qui se projette en 2031. Et je crois que c'est un projet hyper enthousiasmant grâce à cette mixité programmatique et cette ambition carbone qui va nous projeter dans une nouvelle façon de vivre à la défense et pas uniquement de travailler.
Et ce nouveau visage, juste, est-ce qu'il va utiliser des matériaux ? Est-ce que vous allez pratiquer l'économie circulaire ?
Les matériaux vont être recyclés ? L'économie circulaire et le réemploi, ouais. Puisque c'est un levier extrêmement important pour atteindre les objectifs carbone qu'évoquait Laurent à l'instant.
Et même question pour vous, pour finir, Laurent, la défense 2031.
La défense 2021, c'est...
31, pardon.
Oui, 31. C'est mixte ?
Oui.
C'est bas carbone, c'est paysager. D'ailleurs, je voudrais citer le bureau des paysages qui nous accompagne sur ce projet, qui est le bureau Inside Outside et qui fait vraiment un travail remarquable. C'est un quartier qui sera rempli de biodiversité.
Avec des hérissons,
mais pas que.
Pas que, j'espère.
Je pense que ce sera un quartier désirable dans lequel on aura envie d'aller. Et je pense qu'effectivement... 2001 en est aujourd'hui le symbole et il en deviendra vite la réalité.
Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les deux, voilà, de nous avoir présenté ce beau projet, le quartier 2001 à La Défense. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler intelligence artificielle et immobilier dans Carrément Immo.